Chapitre 33. Bayo parti, le baron se demanda s'il avait eu raison de ne pas prendre la lettre que celui-ci voulait lui confier. Assurément, il y avait des avantages à la tenir entre ses mains, car sans savoir ce qu'elle contenait, il était bien certain que ce n'était point une lettre innocente. Bayo parlait de son amour et de l'engagement pris par Carmélite. Assuré que Carmélite serait seule à lire cette lettre, il s'exprimait en toute franchise, entraîné par la passion. Remise au colonel, elle serait plus que suffisante pour l'éclairer. Et cependant, il ne l'avait pas prise. Pour chercher le mieux, n'avait-il pas laissé échapper l'occasion qui se présentait si belle? Il avait fallu toute la confiance que lui inspiraient l'intelligence et l'expérience de Madame de Lucilière pour retenir sa main et repousser celle que lui tendait Bayo. Mais cette détermination, prise à l'improviste et sans avoir pu la peser, sans l'examiner attentivement, comme il avait coutume de faire dans les circonstances graves, n'était pas sans le jeter dans le doute et l'inquiétude. Si le plan qu'il avait adopté si vite, sans l'avoir étudié, allait ne pas réussir. Il était bien hardi, ce plan, et bien aventureux. Car il ne s'agissait de rien moins que de rendre le colonel témoin de l'entrevue qui aurait lieu entre Carmélite et Bayo. À coup sûr, cela était audacieux. Mais aussi, quel résultat décisif et triomphant! Ce n'était plus une lettre sur laquelle on pouvait discuter et dont il fallait prouver l'authenticité, ce qui était assez délicat, car il fallait appeler Bayo en cause. Que dirait celui-ci lorsqu'il verrait l'usage qu'on avait fait de sa lettre? Ces Italiens sont vindicatifs et ils vont loin lorsqu'ils veulent se venger. Pour eux, un coup de stylet est bien vite donné, et s'ils ne veulent pas agir eux-mêmes, ils sont habiles à trouver des instruments dociles. Or, bien qu'il fût brave lorsque la bravoure était absolument nécessaire, le baron n'aimait pas à se risquer inutilement. En rendant le colonel témoin de l'entretien de Carmélite et de Bayo, le baron n'avait point à courir ce danger, pas plus qu'il n'avait à intervenir directement dans des explications et des preuves plus ou moins difficiles. Le colonel voyait de ses propres yeux, donc il ne pouvait pas récuser le témoignage. De ses propres oreilles, il entendait. Et qu'entendait-il? Là était la question décisive. Mais, à vrai dire, elle ne tourmentait pas beaucoup le baron. Bien que Bayo n'eût point expliqué de quelle façon il avait obtenu l'engagement de Carmélite, le baron était fixé à ce sujet. Carmélite était une fille passionnée, cela se lisait dans ses yeux noirs, dans sa bouche charnue, dans ses lèvres sensuelles. Et elle avait la chaleur du midi dans le sang. Elle était de race latine, et qui plus est encore, de race italienne. Les principes ethnographiques auxquels il croyait fermement indiquaient qu'elle n'avait pas dû aimer Bayo d'un amour idéal. C'était sur un fait matériel que cet engagement reposait. Il était donc bien certain que, dans une explication comme celle qui s'engagerait entre Bayo et Carmélite à se croyant seul, il se dirait des choses suffisantes pour éclairer le colonel sur le passé de sa fiancée. De cela, le baron n'avait pas le moindre doute, la lumière serait éblouissante. Mais ce qui le préoccupait beaucoup plus, c'était la manière d'amener et de régler cette entrevue. Tout d'abord, il fallait réunir chez lui, en même temps, Carmélite, Bayo et le colonel. Puis il fallait que Bayo et Carmélite se crussent assurés contre toute surprise, de telle sorte qu'ils se laissassent entraîner à parler en toute franchise, à agir en toute liberté. Enfin, il fallait placer le colonel dans des conditions où ce serait le hasard seul qui lui ferait surprendre cet entretien. Il y avait là un ensemble qui présentait de sérieuses difficultés, car rien ne devait manquer. Au même moment, ces trois acteurs devaient se trouver nécessairement en face les uns des autres. Mais le baron n'était pas homme à s'embarrasser des difficultés. La première chose à faire, c'était d'arrêter le lieu où devait se passer la scène. Pour cela, il fallait une pièce dans laquelle Bayo attendrait l'arrivée de Carmélite, puis il en fallait une seconde où l'on placerait le colonel, enfin il en fallait une troisième en communication avec les deux premières où l'on ferait entrer Carmélite et où l'explication se produirait. Malheureusement, l'hôtel du baron ne se prêtait pas à cet arrangement idéal et du jour au lendemain, on ne pouvait pas le machiner comme un théâtre qu'on dispose selon les exigences de la mise en scène. Le baron dut se contenter de ce qu'il avait et suppléer par l'habileté à ce qui matériellement lui manquait. Une serre occupait le milieu du jardin et s'appuyait sur l'autel, communiquant avec le grand salon par deux larges baies, contenaient ouvertes ou fermées à volonté, avec des portes-fenêtres ou avec des stores. Ce fut cette serre que le baron choisit pour le lieu de la scène entre Bayo et Carmélite, et ce salon pour y apposter le colonel. Quant à Bayo, il se tiendrait dans le jardin, caché n'importe où. On ferait tout d'abord entrer le colonel dans le salon, dont les fenêtres en communication avec la serre seraient fermées par les stores. Ensuite, on introduirait Carmélite dans la serre, où on la laisserait seule et où Bayo viendrait aussitôt la rejoindre. Du salon, le colonel entendrait tout ce qui se dirait dans la serre, et il arriverait certes un moment où, si peu curieux qu'il fût, il voudrait voir ce qui s'y passait. Mais pour mener à bien ce plan ainsi disposé, le baron avait besoin d'une aide. Il prit sa fille. Seulement, il ne jugea pas utile de lui expliquer à quoi il l'employait. « Ma chère enfant, lui dit-il quand tout fut prêt, nous avons une surprise à faire à Carmélite. Quand je dis nous, il faut entendre le colonel Chamberlain qui a besoin de lui parler en particulier et qui ne veut pas lui demander cet entretien. Il faudra donc qu'un de ces jours, tu amènes Carmélite avec toi ici. Tu la feras entrer dans la serre et, sous un prétexte quelconque, tu la laisseras seule. Le colonel, qui sera dans le salon, ira la surprendre. C'est un service qu'il m'a demandé et que je puis d'autant moins lui refuser que je crois qu'il s'agit de choses sérieuses. Quelles choses ? Oh, je n'en sais rien et nous ne devons même pas chercher à le deviner. Ainsi, je te recommande la discrétion. Il n'est pas à craindre que je parle puisque je n'ai rien à dire. Enfin, fais ce que je demande aussi simplement que possible. Il se peut que j'assiste à cet entretien, alors tu seras la première informée de ce qui se sera passé. J'ai comme un pressentiment que le mariage de Carmélite avec le colonel n'est pas encore fait. Oh, papa ! Chut ! Et le baron, mettant un doigt sur ses lèvres, se retira discrètement. Il en avait dit assez. Cela fait, il se retourna vers Bayo et l'alla trouver chez lui. Car en pareille affaire, il ne lui convenait pas d'écrire. Les lettres se gardent. « J'ai arrangé les choses, dit-il, ou plutôt je les ai préparées. Voici ce que j'ai imaginé. Ce n'est peut-être pas très habile, car je reconnais que je n'attends rien à l'intrigue, mais il me semble que ce que j'ai en vue peut néanmoins réussir. Je fais venir Carmélite à chez moi et on l'introduit dans la serre où on la laisse seule. » Aussitôt vous, qui vous promeniez dans le jardin en prenant la précaution de ne pas vous laisser voir, vous vous glissez derrière elle et, la porte de la serre refermée par vous au verrou, vous vous expliquez sans crainte d'être entendu ou dérangé par personne. Vous trouverez dans cette serre un coin où vous serez caché comme dans un bois. C'est auprès de la grotte, dans le fond, contre le mur de la maison. Amenez-la dans ce coin et ne craignez rien, vous y serez chez vous. Bayo trouva cet arrangement très heureux, cependant il proposa au baron une légère modification. Si, au lieu d'attendre l'arrivée de Carmélite dans le jardin, il attendait dans la serre même, caché dans la grotte ou derrière un arbuste. Mais le baron n'adopta pas cette combinaison qui pouvait faire échouer son plan. En effet, Bayo, s'introduisant le premier dans la serre, pouvait appeler l'attention du colonel, tandis que c'était la voix de Carmélite qui devait frapper cette attention. « Non, dit-il, j'aime mieux le jardin. Dans la serre, il y aurait préméditation de votre part et complicité de la mienne. Il vaut mieux que cette rencontre arrive par hasard. Vous voyez Carmélite entrer dans la serre, vous la suivez, rien de plus naturel. » Enfin, le baron s'adressa au colonel pour un service à lui demander, un renseignement sur l'Amérique, qui ne pouvait être précis qu'en ayant sous les yeux une masse de lettres. Le colonel promit de se rendre le lendemain à l'hôtel de la rue du Colisée. Mais ce n'était pas assez, il fallait préciser l'heure. Le colonel indiqua 3 heures de l'après-midi. Aussitôt, le baron prévint Bayo de se tenir prêt pour le lendemain, et en même temps, il envoya Ida chez Carmélite pour l'avertir que le lendemain, vers 2 heures et demie, elle viendrait la chercher pour sortir en voiture. Tout était prêt.